soirée. Bonsoir, bienvenue sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger. On a essayé de faire un jingle, on ne sait pas si ça a marché. Peut-être que vous l'avez entendu deux fois, peut-être aucune fois. Donc vous êtes bien sur Dégenrer, l'émission pour déranger, l'émission féministe. On est diffusé les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois, de 18h30 à 20h. Et ce soir, donc à la technique, c'est Inga et au micro, Hélène et Marina. Et nous avons des invités, donc nous avons invité... des filles qui ont été impliquées dans les mouvements anti-CPE et notamment dans l'occupation de la fac de Grenoble. Donc ce soir, nous sommes avec Jeanne, Anne-Laure et Louda.
Bonsoir.
Bonsoir.
Très bien, on avait répété un petit peu. Alors, c'était un peu en résumé mouvement anti-CPE, mais pour nous, et je pense pour Louda, Jeanne et Anne-Laure, moi aussi, c'est beaucoup plus large que ça en fait comme mouvement et c'est ce qui fait que ça a pris autant d'ampleur aussi. En tout cas, à mon sens, c'est bien les questions de tout le monde du travail en général qui sont posées et puis aussi la question des inégalités sociales parce que c'est toujours dans une société où il y a une grande précarité et du coup ça se traduit par l'emploi mais aussi le chômage et plein d'autres facteurs quoi. Donc je sais pas si vous avez envie de nous dire deux mots un peu de vous justement, quelles revendications vous portiez au-delà de l'abrogation du CPE.
Ouais. C'est sûr que, enfin, pour moi, par exemple, le CPE, je m'en foutais un petit peu, enfin, et que c'est qu'un détail, et que c'était plus une remise en cause de tout un système, et qu'on se battait, contre la précarité, contre l'état répressif, enfin, et contre plein d'autres choses, et qu'on avait envie, de recréer d'autres choses, et que le CPE, c'était vraiment un détail, et du coup, c'est pour ça que moi, je pense pas que maintenant, on a gagné quelque chose, ou qu'il y a une victoire, enfin, pas du tout.
C'était ça aussi quoi. Je pense qu'en plus le mouvement il a été vachement large et il a touché plein de gens parce que plein de personnes on a ras-le-bol quoi en ce moment, c'est du trop quoi au niveau de ce qui se passe en France et dans le monde aussi quoi.
Donc c'est les revendications que vous avez essayé de porter les derniers mois.
Par contre, elles n'ont pas été spécialement entendues ou du moins relayées par les syndicats, les partis et les médias.
Oui, c'est ça que je me demandais. C'est que j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de personnes dans les manifs ou à la fac qui m'avaient l'air effectivement de pas juste être sur le CPE, mais effectivement de façon plus large. Mais je ne sais pas si vous avez eu la sensation de réussir à porter cette parole-là au-delà justement de cette loi.
Je trouve que pas spécialement dans le sens où à l'heure actuelle justement beaucoup de personnes nous disent mais pourquoi vous êtes encore en lutte, parce que vous avez gagné, c'est bon, le gouvernement a fait un pas en arrière, ils ont retiré le CPE, alors que finalement vu que c'était pas notre lutte principale, comme disait Anne-Laure, on n'est pas encore satisfait quoi.
Et en même temps, moi, dans les manifs où j'allais ou quoi, j'avais l'impression qu'il y avait peu d'autres messages que retrait, retrait, retrait du CPE. Est-ce que vous avez, comment poser ma question, mais...
Ouais, au niveau des slogans, tout ça.
Oui, par exemple, de ce truc qui est aussi une mode de visibilisation de ce qu'on revendique, au-delà des médias. Comment vous l'avez vécu, ou je sais pas.
Ben, moi, y a un truc, par exemple, on avait mis en place, sur Grenoble, du moins, des personnes attitrées pour parler au niveau de la presse. Et ça n'a pas été accepté par les médias qui voulaient tout le temps entendre un syndiqué de l'UNEF, ceux qu'on entend tout le temps. Et par aussi certains étudiants qui n'acceptaient pas de jouer le rôle, ce rôle-là. Quoi.
D'accord. Et alors, donc nous, par rapport à plus spécifiquement à Dégenrer, à chaque fois, on se pose la question de dire, tiens, pourquoi on a envie d'aborder tel sujet dans nos émissions. Et je crois, bon, bah déjà, voilà, vous êtes trois nanas ici avec nous. Voilà, qu'on était très impliqués, qu'on fait vraiment vivre ce mouvement. Donc déjà, pour nous, ça a beaucoup de sens. Et puis après, le but de cette émission, ça va être aussi de voir en quoi toutes ces questions-là, elles ont été présentes lors de l'occupation de la fac. Donc on peut peut-être juste dire, peut-être avant de faire une petite pause musicale, on peut juste rappeler combien de temps elle a duré, cette occupation.
Alors l'occupation, elle a duré un mois et demi, ouais, 6 semaines, et on avait bloqué la fac déjà 2 semaines avant. Voilà. Donc au bout de 2 semaines que la fac était bloquée, on a décidé d'occuper un lieu, la galerie des amphithéâtres, à l'université Pierre Mendès France. Et voilà, donc au départ, on était une cinquantaine à occuper les lieux, et moi, je pense qu'on était 50-60 occupants, mais il y avait toujours du monde qui passait la journée, les soirs.
Donc ça vaut le coup de chausser nos lunettes féministes pour regarder, enfin porter un regard sur ce qui s'est passé. Donc c'est ce qu'on va faire tout au long de cette émission. Et pour commencer, on vous propose d'écouter une chanson.
Donc c'est une femme qui s'appelle Ochi Curiel. Donc c'est une mexicaine qui est plus précisément zapatiste. Et voilà, donc ça nous semblait intéressant dans cette perspective de lutte de parler de ce mouvement révolutionnaire et armé. Et alors ça, on aura aussi l'occasion d'en parler un peu dans cette émission des modes de lutte et de comment les femmes s'impliquent dedans. Et voilà, sachant que c'est donc l'armée révolutionnaire zapatiste où il y a où il y a des femmes qui s'organisent et qui ont des postes clés aussi dans la lutte.
Et c'est ce dont parle cette chanson, je crois, justement, de toutes les femmes qui luttent.
Voilà, et donc la chanson s'appelle Esther Zapatiste.
En pasamontañas, cubriendo el rostro, no su palabra. Las que dejaron cocinas, tomaron armas en las mañanas. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad. Indígena eres, color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón. Indígena eres y es tu conciencia la que hace ponerte de cara al sol. Que amarran sus verdades con paliacates en sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del dolor triplicado de mujer pobre, india de nada, las que huellas han dejado borradas todas por las distancias. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón, indígena eres y es tu conciencia la que hace ponerte de calzón. Y allá arriba en la montaña se levantaron con sus miradas, en la tierra y en los llanos se oye el grito de sus demandas, pues sus voces llegaron a ser simbologías de lucha y ganas. Construyendo mil caminos se vieron ellas en sus mañanas.
Dégenré, l'émission pour déranger, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Ce soir, nous sommes avec des filles qui étaient impliquées dans le mouvement là, ces derniers mois, notamment contre le CPE, mais en fait beaucoup plus largement que ça, et à l'occupation de l'université de Grenoble. Alors, peut-être justement, on peut revenir sur cette occupation et même sur ce mouvement, l'historique de comment ça a démarré, comment à la fac.
Et peut-être pour resituer aussi un peu par rapport aux premières manifs nationales, comment, quelle participation un peu il y a eu à Grenoble, à quel moment est arrivée l'idée d'occuper la fac, comment ça s'est organisé, tout ça.
Alors en fait, donc si je me rappelle bien, au départ on était une trentaine dans une salle de TD à se dire qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et à se décider à bloquer la fac. Et donc du coup, le premier matin où on a bloqué, on n'était pas très nombreux. Et puis, ben, finalement, de bloquer la fac, ça permet de rassembler les gens et de les mobiliser. Et puis, voilà, je crois que 2-3 jours après, on était 100, 150 les matins à bloquer et à faire des assemblées générales de plus en plus nombreuses. Donc, des manifestations où il y avait de plus en plus de gens. Et c'est au bout de 2 semaines, je crois, où on s'est dit, où on a dit en assemblée générale qu'on voulait occuper un lieu, qu'il était temps d'avoir un lieu pour se rassembler, pour faire les réunions. Pour créer la lutte un peu. Voilà.
Donc en assemblée générale, ça faisait l'unanimité, ouais, ce besoin d'occuper un lieu.
Oui, mais après, il y avait toujours des gens qui étaient contre le fait de bloquer la fac, donc finalement, du coup, de l'occupation. Mais ouais, je pense que.
Globalement, c'était assez suivi.
Ouais.
Et du coup, donc tu disais que en moyenne, il y avait une 60aine de personnes. Pour l'occupation de ce lieu, quelle forme ça prenait? Parce que je pense que pour plein de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. L'occupation, c'est quoi? C'est y dormir, y faire des cours, c'est quoi?
C'était de se réapproprier nos lieux, enfin, se réapproprier la fac et d'essayer de vivre dedans et d'organiser des choses à l'intérieur. Et donc voilà, donc on s'est organisé. On avait pris donc toute la galerie des amphithéâtres, où chaque amphithéâtre avait son rôle un peu. Donc il y avait des amphithéâtres où il se passait les réunions, les débats, des amphithéâtres où les dortoirs, la cuisine, voilà. Et un infokiosque, voilà, plein de choses toute la journée qui s'y passaient.
En fait, ouais, c'est qu'on était une 60aine à dormir et à être vraiment là tout le temps de l'occupation. Et après, il y avait plein de gens qui gravitaient ici parce que c'était vraiment aussi, on voulait un lieu ouvert, d'échange et... Il y avait tous les anti-bloqueurs qui étaient largement conviés pour discuter aussi, voir leur point de vue. Quoi, ceux qui voulaient bien parler, c'était intéressant aussi d'avoir leur avis. Mais après, il y avait aussi tous les salariés qui venaient voir pour avoir un relais et tous les étudiants qui pouvaient un peu voir.
Vous avez rencontré beaucoup de gens autres qu'étudiants dans ce mouvement-là, ça a été possible?
Ouais, Il y a eu quand même pas mal de SDF qui sont passés, des lycéens, ouais, quelques salariés, un petit peu de profs, mais pas beaucoup.
Mais c'est vrai qu'il y a eu une occupation aussi de Stendhal, de l'université de Stendhal du Hall Nord par les professeurs. Quoi, au bout de, je sais pas, 3-4 semaines, ils ont aussi voté l'occupation de leurs locaux. Donc c'était bien d'être suivi aussi. Là.
La réaction et de l'université, enfin de l'université par rapport à cette occupation, ça a été quoi? Parce que moi, de plus de l'extérieur, j'entendais régulièrement « Ah, ça y est, on va être délogé, on va être expulsé et tout. »
Ouais, ils avaient demandé, donc ça se passait ouais, à la préfecture, il y avait eu un référé, et puis un référé qui a été accepté, mais bon voilà, il n'y a pas eu de... Finalement, il n'y a pas eu de suite.
Je crois que c'est une décision de justice,
oui.
En fait, et de tribunal. Après, c'est à la préfecture d'exécuter l'ordre d'expulser ou pas.
Voilà, ouais.
L'accord des trois présidents des universités, quoi, la préfecture avant d'envoyer vraiment.
Puis, oui, je pense qu'ils n'ont envoyé personne, mais c'était quand même un gros mouvement national. Enfin, on était 6000 en Assemblée Générale. Voilà, il se passait plein de choses, donc je pense pas qu'ils avaient envie de nous déloger pendant le mouvement.
Et donc, pour resituer aussi, donc, vous, là, l'organisation de cette occupation, parce que malgré tout, ça représente pas énormément de gens par rapport à tout le monde qui est à la fac. Du coup, est-ce que c'était en majorité des gens syndiqués, en majorité, enfin, je sais pas, comment ça s'est passé?
Non. C'était pas en majorité des gens syndiqués, au contraire, en fait. Enfin, les gens qui occupaient, donc il y avait quelques personnes syndiquées, mais enfin, notamment les syndiqués à l'UNEF étaient présents pour les réunions et pour les médias, mais qui réellement habitaient quotidiennement, enfin, se partageaient les tâches. Non, il n'y avait pas.
D'accord. Et c'était quoi un peu le lien en fait de que vous aviez avec bah, les réseaux nationaux d'étudiants et de manifestants, puisqu'il n'y avait pas que les étudiants?
Il y avait des coordinations nationales tous les week-ends. Donc il y avait on a mis aussi un certain temps à ce que ce soit accepté, mais il y avait des syndiqués qui représentaient, et aussi des autonomes, hein, et ça c'est sûr que ça a été difficile quand même à ce que ce soit entendu, mais donc finalement c'était là où pouvait en gros s'échanger les idées et les modes d'action au niveau national, quoi.
Mm-hmm. Donc par exemple c'est juste un peu pour la blague, hein, mais quand Villepin dit qu'il a reçu là, qu'il vient de recevoir tout les représentants de tous les mouvements étudiants, etc., c'est pas exactement le cas.
Non, c'est pas non, ouais.
Pas le cas. Ouais, ouais, non, mais c'est des trucs qui sont peut-être importants à préciser par rapport à la propagande médiatique. Ouais. Alors, peut-être avant de développer plus sur votre implication personnelle à vous dans tout ça, on peut s'écouter un morceau.
Je vous propose d'écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Louis XIII à la cantine. Et c'est des Lilloises, je crois. Et j'ai trouvé ce morceau sur une compilation qui s'appelle la compile Tainia Solium. Donc Tainia Solium, c'est des compilations gratuites de musique qui ne sont pas déclarées à la SACEM. Ça s'appelle musique libre. Et c'est une compilation qui est diffusée gratuitement, du coup, qui est super chouette. Et donc, c'est des Lilloises, et ça s'appelle Louis XIII à la cantine, et la chanson s'appelle Bruno Strasse.
Rip, 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 ah, baby, ah.
est toujours sur Dégenré, donc on est plein de meufs autour du micro, puisqu'on a un seul micro qui marche. On vous donne un peu les petits soucis techniques pour que vous nous excusiez si le son n'est pas toujours de bonne qualité. Alors, on était donc un peu en train de resituer le contexte donc du mouvement de ces derniers mois contre le CPE, mais comme tu disais aussi, Louda, contre la précarité, contre la société compétitive, etc. Et du coup, peut-être ce serait intéressant de voir, vous, personnellement, qu'est-ce que ça a été votre implication là-dedans, quel sens ça avait pour vous de vous investir là-dedans, ce que vous en avez retiré. Un peu en vrac, quoi, vos impressions.
Je sais pas, moi ça faisait depuis... Quoi, je suis née à Grenoble, mais ça faisait depuis 5 ans que j'étais partie de Grenoble, donc je savais pas du tout comment ça bougeait au niveau des réseaux et tout ça. Donc j'ai pu m'investir finalement que quand les facs ont été bloquées. Donc de là, c'est vrai que... C'était quand même super touchant de voir que plein de réseaux sur Grenoble étaient mis en place et que ça pouvait tous se connecter pour aller de l'avant ensemble, quoi. Il y avait une grosse participation il y a pas mal d'étudiants qui se sont mobilisés là-dessus, même si des fois ils avaient que le CPE en vue, quoi, mais ouais. C'est quoi pour une majorité, mais après justement ça a réveillé aussi plein d'autres luttes chez d'autres personnes, quoi.
Mm-hmm. Ouais, moi en fait j'étais il y a 2 ans et demi sur la fac pendant le mouvement contre les LMD. Et du coup, on avait
peut-être précisé LMD,
c'était le licence master doctorat, les nouvelles réformes de l'université. Mm-hmm. Et du coup, il y avait déjà un réseau qui s'était créé, on avait déjà occupé un lieu, la fac de Stendhal. Et donc là, on s'est retrouvé aussi en septembre à se mobiliser contre les prestations pédagogiques, l'augmentation. Voilà. Et donc, on était déjà un bon groupe à avoir envie de faire des choses, à continuer de se réunir. Dans l'hiver, à faire des choses et tout. Et donc là, quand on a décidé d'occuper, moi, c'est un truc dont j'avais vraiment envie de faire et de voir ce que ça pouvait donner. Voilà, et d'essayer de vivre avec des gens et de construire des choses.
Oui, donc c'était aussi l'occupation en elle-même qui avait du sens pour toi, quoi, de voir comment ça pouvait se passer, quoi.
Puis moi, au niveau de l'occupation, j'avais plein d'attentes aussi là-dedans, quoi. Parce que, c'était vraiment mettre en pratique nos idées qu'on ruminait depuis un certain temps. Et là, sur le campus, se réapproprier les facs, d'avoir un lieu ouvert d'échange où on pouvait débattre... avec plein de gens qui y passent. Il y a eu, par exemple, un journaliste de France Bleu qui est venu. Il y avait aussi des discussions sur les mouvements qu'il y avait dans le monde. Plein de choses comme ça, quoi. Et puis aussi, de mettre en place, dans cet occupe, un lieu autogéré, quoi, où chacun est responsable de ce qu'il fait, et, quoi, une vie en collectivité, tout ça, quoi.
Et du coup, concrètement, là, tu parlais de, par exemple, de journalistes qui sont venus, quoi, mais qu'est-ce que vous avez organisé concrètement là-bas? J'ai entendu parler de débats, de films, tout ça, pour donner des exemples un peu.
Ouais, il y a eu plein de débats, des conférences, des projets. Ouais, tout un tas de choses. Voilà,
potager.
Un potager, ouais.
Ah, qu'est-ce qu'il est devenu, ce potager?
Il est maintenu et la présidence a accepté qu'il reste sur le campus. Donc,
toi. D'accord. Et alors, et du coup, vous, de tout ça, qu'est-ce que vous avez retiré de positif ou plus négatif, quoi? Parce que ça, c'était un peu, l'idée, les envies, et au final, comment ça s'est passé pour vous?
ça a été un peu une déception quand même quand l'occupation s'est terminée. Mais je crois que malgré tout, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont envie d'expérimenter un nouveau mode de vie. Les gens de l'occupation en général, il y a beaucoup d'attentes qui... Enfin, un besoin de collectivité, je dirais. Je crois que ça a donné vraiment... envie aux personnes qui étaient présentes à l'occupation de se couper de cette routine où on va à la faculté, où on va au travail, et ensuite on retourne à la maison, on fait à manger, on est tout seul. Je crois qu'il y a vraiment une envie qui a été créée et on a donc à répondre à un besoin de ce côté-là.
Mmh. Ouais, puis on a... Enfin, moi je trouve qu'on s'est créé un gros réseau affinitaire et où là, du coup, là, on cherche à avoir une salle auprès de la présidence pour se réunir et pour continuer à faire des choses. Et on a envie de continuer ensemble. Et voilà, et on a des projets de vivre ensemble et de faire d'autres choses.
À côté aussi du contexte universitaire.
Voilà, quoi. Et de sortir un peu du quotidien. Ouais. Mmh.
Et ce qui nous a aussi fait peut-être un peu aussi nous rencontrer, c'est aussi des choses qui ont été plus difficiles dans cette expérience-là, notamment autour des questions de genre, tout ça. Donc, je sais pas, votre analyse par rapport à ça.
Alors, ouais. par exemple, par rapport au féminisme, c'était pas la priorité. Enfin, il y avait, on a parlé plein de choses dans la lutte, mais on n'a pas parlé de ça et on n'a pas parlé de. Déjà, dès le départ de l'occupation, on n'a pas discuté tous ensemble de comment on voulait vivre, comment on faisait s'il y avait des problèmes. On ne s'est pas mis d'accord sur où est-ce qu'on pose les limites, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble. Et du coup, il y a eu des problèmes, il s'est passé des choses graves et où on n'a pas su gérer sur le coup. Donc, où c'est pas évident.
Et même, encore au début, il n'y a pas eu de réunion, quoi. Ou des moments posés pour qu'on parle de ça, mais même après les problèmes, on n'en a pas spécialement non plus eu, quoi.
Ouais. Une réunion, par exemple, pour formaliser les modes de... l'organisation de la vie collective, c'est ça?
Ouais.
C'était l'expérimentation hyper spontanée, en fait.
Voilà, c'est ça. On était dans une effervescence complète, donc l'analyse, on ne pouvait pas la voir en même temps, parce qu'on était toujours dans une forme d'action permanente. Donc l'analyse était toujours rétrospective. C'était...
Il y avait toujours d'autres choses à faire. Et puis il y avait aussi justement les comités de mobilisation, les commissions aussi. Donc c'est vrai qu'on était débordés au niveau des actions à mettre en place et des réunions aussi. Quoi,
et par exemple, est-ce que vous, maintenant, du coup, rétrospectivement, vous voyez quels étaient vos ressentis par rapport à ce mode de vie collectif, là, et puis vraiment super collectif, avec des dizaines de personnes, qui aussi du brassage dans tous les sens, enfin, parce que c'était aussi ça, ce que ça représentait, le fait de dormir là-bas,
dans les mêmes espaces.
Dans les mêmes espaces, tout ça. Et comment vous les avez vécus, ces ressentis? Cette expérience-là, avec les ressentis peut-être négatifs parfois, et comment vous pouviez les dire ou pas, je sais pas.
Moi, je trouve que ce qui avait de difficile, c'est que on voulait créer un lieu ouvert au milieu de la faculté, et du coup, des fois, le lieu ouvert, ça passait avant tout, avant nous, ce qu'on était en train de vivre dedans, et nous, nos besoins et nos envies, et du coup, c'était pas évident tout le temps. Et moi, je pense que si on réoccupe un jour. De parler dès le début de ces problèmes-là et de dire comment on va gérer ensemble tout ça et je pense que c'est important et on l'a pas assez fait.
Et est-ce que vous avez des exemples peut-être plus concrets c'est ça, je pense que pour des gens qui n'ont pas forcément ces pratiques de vie à plein de monde pendant des semaines ou quoi, on dit alors mais c'est quoi les problèmes, ah oui c'est pas évident et tout, par quoi ça passe, je sais pas, il y a des exemples qui vous sont restés à l'esprit ou...
Peut-être dans la répartition, l'exemple auquel je pense souvent, c'est la répartition des tâches dans la vie collective, forcément, que ce soit au niveau des repas, et puis notamment pour cette histoire de genre, justement, de rapport entre les hommes-femmes, de répartition entre les garçons et les filles. Est-ce que vous avez eu des ressentis par rapport à ça?
Pour la répartition des tâches, je dirais pas spécialement qu'il y avait moins de garçons qui passaient le balai ou qui faisaient la cuisine. On était très peu à s'en occuper. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des responsabilités, très souvent, personnellement, très souvent, on venait me demander s'il y avait à manger ou où était le balai et tout ça. Et au bout d'un moment, ça me... Voilà. Enfin, ou à d'autres filles, je suppose. Ouais. Et toujours ce genre de truc. Et on venait pas souvent me dire qu'il y avait une action ou savoir où était... Enfin, voilà, les trucs plus bourrins, quoi. Mmh. Ouais. Et je pense qu'on est pas mal à le ressentir.
Ok. Eh ben, ouais, je crois que... Enfin, on avait peut-être aussi envie, après, d'approfondir sur les questions aussi de... Voilà, il y a eu des choses aussi plus graves qui se sont passées, tout ça. Et du coup, peut-être on peut s'écouter un morceau avant de revenir dessus.
D'accord, pas de problème.
je sais pas ce qu'on s'écoute après.
Ah ben oui, moi je sais. On va écouter une chanson d'Harold qu'on a déjà passée plusieurs fois, mais elle tombe bien dans cette émission. C'est la révolte. Ça parle de révolution dans la rue, de révolte dans la rue, d'action directe dans la rue, et notamment des femmes.
Des femmes.
Sur la place de l'église en feu, une barricade de pneus crevés nous entourait, nous protégeait, nous encourageait. Les projectiles que nous lançaient, les forces armées sur nous n'avaient aucun effet. Aucun effet. La statue du roi Albert Ier vient d'être décapitée par un obus, de mortier. Les poings levés, l'œil émerveillé, nous nous sommes mis à danser, à danser, à chanter.
Toujours dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM où ce soir nous parlons de l'occupation de la fac ces derniers mois et nous avons invité des filles investies là-dedans. Et juste avant la pause musicale, on essayer de parler un peu de, au quotidien des rapports, enfin, de la répartition des tâches entre les garçons et les filles, plutôt dans les tâches quotidiennes, dites du ménage ou la cuisine ou quoi. Et apparemment, ce qui ressortait, c'est que c'était pas tant dans qui faisait quoi que vous sentiez des différences que dans les, qu'en gros, dans les stéréotypes de préoccupation, quoi. Qu'en gros, c'était, tu disais, bon, c'est à moi qu'on vient demander si c'est prêt, où est le balai, quoi. Plutôt qu'à moi qu'on vient demander où est la banderole. Enfin, je prends un truc un peu caricatural, mais c'est un peu ça que tu disais. Et moi, justement, je me demande, au-delà de ces trucs plus, quotidiens, il y a aussi, pour moi, la répartition des tâches, c'est aussi dans justement, dans les actions, quoi. Dans les actions de cette lutte, là, où il y avait les manifestations à organiser, à préparer, les actions à organiser, et où j'ai l'impression que le lieu de l'occupation, c'était aussi un lieu où se préparaient ces choses-là. Et comment vous avez ressenti la répartition des rôles entre les hommes et les femmes à ce niveau-là?
Bah, y avait un amphi, en fait, qui était fermé, cadenassé, là où se préparaient plus les actions dites directes ou... Les actions ponctuelles et un peu musclées, tout ça, et là c'est sûr.
Qui devait être plus discrète que, le fameux, que les grandes manifs, quoi.
Qui devait être plus discrète, et donc c'était pour ça que c'était cadenassé. Pas tout le monde pouvait rentrer non plus, quoi.
Ouais, il fallait pas que ça circule tout le temps.
Ouais. Mais...
C'était le fameux amphi 5 secret.
Là où certains pensaient qu'il y avait du plutonium.
et du coup dans cet amphi-là, c'est vrai que la majorité des personnes qui étaient, c'était des garçons. Et qui s'occupaient à préparer leur petite réunion. Et moi, par exemple, j'étais responsable de la clé.
Tu veux dire que tu alors que pas souvent.
Alors que j'y ai rarement mis les pieds, à part pour poser mes affaires personnelles, parce que du coup, ben, y a eu des vols, donc on mettait un peu des affaires là, vu que c'était cadenassé. Donc moi, j'avais les clés. Et donc... Plusieurs fois par jour, les garçons venaient me demander la clé pour aller s'amuser dans l'amphi 5. Et donc, ouais.
Mais on n'était jamais conviés, quoi.
Mais c'est ça, ouais, un peu. Enfin, quel est votre ressenti par rapport à ça? Parce que, je veux dire, les questions des formes d'action, tout ça, ça dépend vachement des envies des personnes et tout. Mais est-ce que pour vous, c'était une question qu'il se trouve qu'il y avait peu de nanas qui avaient ces envies-là? Enfin. Ouais, comment vous analysez tout ça?
Je pense pas que c'est qu'on n'était pas conviés ou qu'on n'en avait pas envie. C'était une sorte d'atmosphère qu'il y avait aussi dans cet amphi 5 où c'était ouais, allez les mecs et tout, on fait des trucs et tout. Ouais. Enfin, vraiment, c'était ça. Et enfin, moi je m'y sentais pas très bien. Et donc, je pense pas que c'était qu'on était. Enfin, que les filles avaient. Enfin, c'était pas.
Vous n'étiez pas invitées.
Voilà, on n'était pas ça du tout, quoi.
C'était mais, pas interdit, quoi.
Ouais, voilà. Mais on n'y était pas... Je sais pas, c'était une ambiance assez bizarre, en fait.
Est-ce que... Parce que moi, la comparaison, quand même, qui me vient, c'est, par exemple, un certain nombre, voire peut-être la majorité de bistrots du coin de la rue, quoi, le soir, à partir d'une certaine heure. Enfin, moi, j'ai le souvenir que souvent, avec une copine ou deux copines, voilà, on avait envie d'aller boire un coup dans ce bistrot-là et tout. Et il y avait une atmosphère, vraiment, entre les mecs qui était telle, et ben qu'on avait l'impression que mais qu'est-ce qu'on foutait là, ou que c'était pas notre place, ou que je sais pas quoi, alors qu'il y avait de leur part, il y avait pas de ni de reproche, ni d'hostilité, ni de machin. Bon, de temps en temps quand même des blagues sur ah elles sont mignonnes les filles, bon, mais pas forcément toujours non plus, sauf que l'ambiance, voilà, faisait que ben on n'avait pas forcément envie d'être là, ou on s'y sentait pas forcément bien. Et ouais, et du coup, moi, c'est un peu la comparaison qui me vient, finalement, sur ces espèces d'états de fait. Mais, ouais.
Ça vous parle,
Oui, complètement.
Ouais. Et je sais pas, et toi, Jeanne, par exemple, par rapport à ça, je sais pas, enfin, parce que, voilà, je peux dire que, je sais pas, je te sens assez remontée sur des trucs et tout, alors je te voyais bien faire... être motivée par plein d'actions et tout, mais t'allais pas spécialement dans ton fil-là non plus ou...
Si, ça m'arrivait d'y aller, mais... en fait, j'ai pas trop d'opinion sur la question, là, à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai pas ressenti vraiment une atmosphère... dans ce temps fil-là, enfin, pas forcément une atmosphère qui pouvait nous faire ressentir... Fin...
être mal à l'aise.
Non, quoi, oui. Mais après, c'est plus parce que c'était un petit cercle fermé, quoi. C'est plus parce que c'était quelque chose qui devait être discret, donc c'est sûr que pas tout le monde était convié à rentrer, c'était pas un espace complètement ouvert, c'était l'espace fermé dans l'espace ouvert, quoi. Mm-hmm. Mais après, je peux comprendre que ça a pu être ressenti comme ça, enfin, dans tous les cas. Mais c'est sûr que c'était pas volontaire, c'était pas une volonté, justement,
de rester entre mecs.
Voilà, non, c'était pas ça.
Ouais. Moi, il me semble que c'est rarement le cas, hein. Enfin, que c'est rarement leur volonté. Mmh. C'est un truc, bon, on sait pas pourquoi vous venez pas, mais vous pouvez tout à fait venir. Voilà. C'est pour ça que je trouve la question intéressante à poser. C'est pourquoi peu de filles y aller? Est-ce que c'est parce que les filles n'aiment pas, ont peur, ou est-ce que, enfin, c'est pour ça que je trouve la question importante à poser, quoi. Effectivement, je dis pas que c'est les individus hommes à ce moment-là à la fac qui ne voulaient pas. Hein. Moi, c'est pas...
Oui, bien sûr.
Puis, ouais. Puis il y a aussi, enfin, moi c'est pas que j'avais pas envie, c'est aussi peut-être un peu une peur de, ben, où je sais pas faire, enfin, je sais pas comment utiliser la machine pour construire un bouclier ou je sais pas. Et j'avais l'impression que dans cet endroit-là, je pouvais pas, enfin, c'était pas un lieu d'échange où on allait m'apprendre quelque chose en fait, parce que c'était là, ben, on construit nos trucs. Et dans 10 ans, je voudrais bien t'expliquer comment ça fonctionne, mais pas maintenant, parce que maintenant on est dans l'urgence. Et maintenant on fait notre truc. Et du coup, enfin, moi, c'est des choses que j'aurais bien aimé apprendre à, ouais, à utiliser tous ces trucs-là. Mais c'était pas le moment, parce que déjà, on était tous à fond sur plein de trucs et que c'était pas le moment de se poser et d'apprendre.
Et du voilà, coup, donc
j'avais pas envie. Voilà, donc j'avais pas envie d'aller là-bas. Du coup, j'aimais pas trop ce truc-là, quoi.
Mm-hmm. Et puis c'est souvent ça, c'est que la répartition entre, enfin, et notamment cette répartition-là entre garçons et filles se fait aussi souvent sur les savoir-faire. Ouais. Et qui détient les savoir-faire, notamment pour souder ou je ne sais pas quoi faire, percer, pour les trucs de bricolage, quoi, ou de construction, bah, c'est souvent les garçons. Et si on est dans une ambiance d'urgence, de bah écoute, il y a la manif demain, j'ai pas le temps de t'expliquer,
et puis toi d'ailleurs, t'as même pas envie de demander parce que tu sens que c'est pas le moment.
Ça maintient aussi ces inégalités-là, quoi. Mmh. Et ça, c'est un truc que je trouve tout à fait légitime de pointer, quoi. Mmh. Enfin, j'ai envie de vous le dire, c'est logique, vos ressentis, quoi. Éventuellement vos colères. Même si ce soir vous allez être assez fatigué, on ne va pas être très en colère.
Non, mais par contre, c'est vrai que ce qui est quand même rigolo, c'est quand même que la clé n'était pas souvent dans les mains d'un homme, quoi. Enfin,
ouais.
Voilà, c'était. Enfin...
En termes de savoir-faire aussi, tu penses que
c'était ouais, donc, voilà,
de gérer une clé. Voilà.
Exactement.
Et du coup, ça peut aussi rejoindre là, les questions d'organisation, bah, les manifs à proprement parler, donc avec. Donc, enfin, en gros, souvent, c'est passé, il y avait des gros cortèges le matin, et puis l'après-midi, ça partait plus, il y avait des gens, plus peut-être les gros syndicats, tout ça, qui se posaient à un endroit, manger des merguez, etc. Mmh. Et puis, après, des petits groupes qui avaient envie de continuer à être dans une contestation, et que ça prenait plein de formes. Et, Alors, loin de moi l'idée de vous demander exactement ce que vous avez fait, parce que je pense que c'est pas des choses forcément à raconter, mais en tout cas, savoir un peu vous, dans quel état d'esprit vous étiez, et comment vous avez trouvé que ça se passait à ce niveau-là aussi. Parce que par exemple, moi, j'y suis très peu allée et tout ça, mais quand j'ai vu des vidéos, par exemple, j'avais l'impression que les personnes qui étaient le plus offensives, c'était des mecs. Enfin, j'avais vraiment ce truc visuel-là. Je sais pas, vous, du tout, quels ont été vos ressentis.
Bah, c'est clair qu'il y avait pas tant de filles que ça devant les CRS. Enfin, c'était pas... Enfin, c'est clair qu'au niveau du rapport homme-femme, il y avait plus d'hommes que de femmes. Mmh. Après, je pense qu'encore une fois, c'est une question de... Je sais pas. Oui, voilà, du fait qu'inconsciemment, bah, on est... On n'a jamais appris non plus à être devant, à être offensif. On a toujours appris à être passive, encore maintenant, quoi. Enfin, il faut le dire.
À faire attention.
Voilà, à faire attention parce que.
C'était
exactement ça. Enfin, je veux dire, le sérum, la plupart du temps, c'était des filles quand même qui le détenaient. Le citron aussi, enfin. Pas tout le temps, évidemment, mais.
Ouais.
Dans la majeure partie des cas.
Okay. Et après, aussi au niveau des leaders. Des leaders. Alors, on faisait tout pour pas qu'il y ait de leader parce qu'on n'aime pas trop ça, mais il y a quand même des gens qui mettaient des gens en tant que leader et sans que eux ils le veulent forcément, mais. Et c'était toujours des. Enfin, c'est toujours 4-5 garçons qui ressortent. À qui ben, c'est à eux qu'on leur demande des choses, c'est à eux qu'on vient se renseigner, c'est à eux. Enfin.
Moi, je me
toujours suis... pareil, quoi. Nous, on est à côté et nous, ça s'adresse pas à nous. Enfin.
À côté de ça, ouais, les achats en pharmacie, c'était les filles. Enfin, ouais. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Hein.
Et,
ouais. Et
pour revenir, alors là, hop, on parlait de la rue, hop, j'ai envie de revenir à l'occupation à la fac et parler de l'ambiance un peu. C'était... Bon, et ma question n'est pas du tout anodine. Hein. Je vais raconter mon anecdote à moi de la fois où j'étais là-bas. Mais c'était quoi l'ambiance à la fac le soir?
La journée.
Tout le temps.
Non, non, non. Ben, oui, il y avait une ambiance assez particulière. Donc, mais il y a eu des trucs super chouettes, hein, je n'ai pas envie. Ouais. Mais oui, il y avait cette ambiance de toujours entendre des insultes envers les femmes, de toujours ressentir qu'on te regarde ou on te siffle ou on te... Enfin, voilà, et d'entendre toujours ça, j'ai l'impression de l'entendre déjà bien assez dans la rue. Et de le voir bien assez souvent. Et ici, on essayait de créer un lieu un peu différent. Et en même temps, voilà, c'était un lieu ouvert. Et ici, il s'est reproduit des choses. Voilà, où il se reproduisait ça. Et où finalement, ça choquait personne. Alors, c'est vrai que. Enfin, je pense qu'il y aurait eu quelques insultes racistes. Je pense que plus de personnes auraient réagi en disant non, attends, c'est bon. Et là, non. Là, c'était tous les jours, tout le temps qu'on recevait ça. Et je pense que. Enfin, moi, ça m'a mis mal à l'aise, et où il y a des moments où j'ai envie de me barrer, où on a craqué, et où ça monte, d'entendre sans arrêt des insultes et des phrases et des paroles sexistes, et au bout d'un moment, bah, tu craques et tu t'énerves sur des gens. Et... Ouais.
Ouais. Ouais, concrètement, ça se traduisait par des insultes. Enfin, on voit un peu le genre d'insultes que c'était, mais enfin, pour vous dire quand même l'importance de la chose, c'était. Ouais, t'as des gros nichons, t'as un beau cul, je peux pas venir sous ta couverture. Alors quand tu répondais ferme ta gueule, j'ai pas envie, c'était oh bah t'es frigide. Enfin, concrètement, ça c'était quand même des choses quand même qui étaient pas. C'est
pas dans la finesse.
Voilà, c'était pas dans la finesse, et pour autant, les réactions des gens autour de nous, c'était bon, c'est pas très important, c'est pas un problème de première importance.
Tu te fais draguer, c'est pas grave.
Ouais, voilà, au moins t'es jolie.
Ah ouais, c'est
ouais.
Rassurant, quoi. C'est
ouais,
ça,
voilà,
c'est
ouais, rassurant. Ouais. Donc, du coup, ouais, voilà, c'était quand même assez décevant pour. Enfin, pour un espace qui se prétendait justement tolérant, ouvert, etc., de voir que des gens qui auraient peut-être réagi différemment si c'était une question de racisme ou quoi que ce soit, n'ont peut-être pas conscience que le sexisme c'est encore une lutte aujourd'hui. Enfin, c'est encore un problème aujourd'hui, quoi. Je sais pas.
Oui, puis que c'est un problème qui est pas juste un problème théorique, quoi.
Oui.
Concrètement, là, ce que vous dites, c'est que quand on vit dans un endroit où tous les jours, sans cesse, régulièrement, on entend des propos sexistes du plus grossier au à la blague, enfin, au plus soi-disant la blague, quoi, et ben ça te met aussi dans une ambiance toi. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui touche personnellement, qui est pas juste un truc théorique, quoi. Ça te met dans une ambiance où tu sais. Où t'es sans cesse ramené à ce que tu es une fille, et ce que ça peut représenter de. Moi, c'est ça qui ressort de ce que vous dites, quoi.
Ouais, ouais.
Et j'ai quand même envie de citer ce que j'ai entendu, moi, la fois où je tenais une table de presse féministe à la fac, derrière un pilier. Je ne sais pas qui est le garçon qui a dit ça, mais vraiment, je lui donne la palme. Donc, entendu texto, la seule chose qui est bien chez les grosses, c'est la levrette.
Ouais, c'est ça, vraiment commentaire.
C'est clair. Et ça dit hyper fort, c'est-à-dire que ça s'est élevé, j'entendais, il y avait des gens qui parlaient, et ça s'est élevé au-dessus de tout ce que les gens disaient. Donc moi, je me suis vraiment dit à ce moment-là, ok, là je suis dans quel lieu, comment je suis en danger, j'exagère un peu, mais comment, qu'est-ce que je suis moi ici, là, si j'entends ça et qu'on me donne pas le choix d'entendre ce truc-là qui me ramène de fait à mon corps, enfin. Pas à moi que ça s'adressait, et pourtant je me sentais hyper mal, j'étais pas du tout contente d'être là à ce moment-là, quoi. Enfin,
tout à fait.
D'être dans cette fac occupée, j'avais juste envie de me casser, quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas spécialement en danger, mais quand on est sur le point d'aller se coucher et tout ça, et qu'il y a un gars qui vient à côté et qui fait ouais, je peux dormir à côté de toi, tu lui fais non, bah alors sur toi, et là tu le regardes et tu fais mais non, quoi. Il y a pas moyen, et t'es quand même toute seule avec lui dans cet amphi, bah, tu te barres dans la galerie pour aller chercher d'autres gens pour être à côté de toi, quoi. Et à ce moment-là, tu te sens pas spécialement en sécurité. Ou bien.
Dans un espace que tu maîtrises. Voilà.
Ouais. C'est pas une atmosphère légère, quoi. Ouais, voilà, ça te remet en pleine gueule ta condition de femme et machin, quoi. C'est ça qui est assez. c'est dur, et ce qui a été dur aussi, c'est la réaction, la réaction de nos amis, quoi, directement, qui ont pris quand même la chose avec beaucoup de légèreté. Donc, en contradiction avec l'atmosphère qui pour nous était lourde, j'ai trouvé leur réaction bien légère, quoi.
Ouais, voilà, c'était, faut pas exagérer, quoi. C'est pas grave, et puis c'est banal de recevoir tout ça dans la gueule. C'est pas grave, voilà. Enfin, et moi, ce truc-là, des gens que j'aime beaucoup. Enfin, finalement, c'était même pas d'entendre ça qui me choquait le plus. Voilà, c'était la réaction dans un lieu comme ça où on essaie, enfin, qui se dit anti-sexiste, anti-fasciste, anti-machin, et que du coup, ben, tu te rends compte que il y a rien derrière parce que, ben, quand nous on se sentait mal et quand nous, enfin, on ressentait de la haine, quoi. Enfin, et que ben, c'est bon les filles. Enfin, et il y avait une sorte aussi de laxisme, ben, voilà. Ou alors, gérer, répondez, quoi. Vous pouvez bien. Bah oui, mais.
Oui, tu voudrais bien que c'est même pas moment... lieu, quoi.
Voilà, voilà. Il y a un moment où. Pouf.
Thank you. Dégenré, 97 FM. Donc on est toujours, on est toujours en train de discuter donc de ces mouvements de contestation de ces derniers mois. Et voilà, et on se rend compte, enfin c'est là pour moi qu'on se rend compte que bah, toutes les luttes sont liées, parce que voilà, enfin on peut pas parler de ces luttes contre le CPE, contre la précarité, tout ça, sans aborder aussi ben, la question des oppressions sexistes, tout ça, parce que voilà, parce que tout est lié, et que je crois que c'est bien ce que vous exprimiez aussi, c'est qu'à un moment on peut pas faire de hiérarchie en disant bon bah là maintenant ça c'est plus important, donc le reste on le met de côté, parce que quand on fait ces hiérarchies là ça veut dire qu'il y a plein de souffrances qu'on occulte. Et moi c'est ce que, enfin aussi ce que je retiens de ce que vous dites, qui est intéressant.
Et dans les discussions qu'on avait eues avant, ce que j'avais trouvé intéressant, et en même temps avec tout ce que ça contient de triste un peu, enfin de triste, je sais pas comment dire, c'est que cette prise de conscience là, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui, dans le fonctionnement au quotidien, dans les rapports entre les hommes et les femmes à la fac, en fait ça a pris du temps à se visibiliser, cette prise de conscience là. Et même ce que vous me disiez, c'est que finalement individuellement, et ben ça a pris du temps que vous vous enfin moi c'est ce que j'avais retenu, ce que vous me disiez, que vous vous autorisiez à vous dire mais là ça ne va pas, là il y a quelque chose qui ne va pas dans ces rapports là. C'est ce qui m'avait semblé.
Et il a fallu un truc grave pour qu'on se rende compte que ça n'allait pas, quoi. Il a fallu qu'une fille nous dise qu'elle s'était fait violer pour qu'on dise oula, il y a un problème, quoi. Comment on gère tout ça, et qu'est-ce qu'il est en train de se passer au sein de cette occupation. Et on s'est rendu compte que ben, nous aussi, sur certains trucs, on se sentait mal, et que voilà. Et il y a eu ce viol de Di, mais on ne sait pas s'il y en a eu d'autres. Peut-être, sûrement. En tout cas, il y a aussi des filles qui se sont fait tripoter la nuit et tout ça. Et du coup, après cette histoire-là, ben, on s'est retrouvés entre filles à avoir besoin d'en parler vraiment. Et que ça venait des tripes, quoi. Mais voilà, on s'est retrouvés entre filles. Et quand on a tenu au coup, enfin, quand on en a parlé à d'autres, et notamment à des. Enfin, voilà, quand on en a parlé à des garçons, ben, c'était. Merde. Ah, merde. Voilà, et c'est tout. Enfin, et il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas ce besoin d'en parler comme nous on avait eu. Enfin, voilà, où c'était nécessaire, c'était même pas. Ben, on se préoccupe de savoir ce qu'on fait demain pour l'Assemblée Générale. C'est. Non, enfin, maintenant on a besoin d'en parler, ça va pas, et on s'est toutes mis à en parler, et à parler de nos vécus personnels et de ce qui se passait à l'occupation et comment on allait gérer ça. Et on s'est rendu compte que, ben, qu'on avait besoin d'un espace entre nous et du temps pour parler de tout ce genre de trucs. Et que ben, les garçons, ils n'étaient pas présents, et que jamais de leur part il y a eu cette envie-là de le partager avec nous. Enfin voilà, et moi ça m'a vraiment mis super mal de voir que, ben, que eux, finalement, ils ressentaient rien par rapport à ça. Et j'avais envie de leur dire mais réveillez-vous, quoi. Enfin, ça vous concerne aussi, et on vit tous ensemble, et c'est pas juste à nous de gérer, c'est pas juste notre problème à nous. Et... Enfin, ouais.
Comme tu disais aussi, quoi. Les premières réactions, ça a été « mais on l'a brutalisé » ou quoi,
forcément. Par rapport à cette fille.
Par rapport à cette fille, par rapport.
Quand ça a été parce qu'elle a des blessures, des coups et des blessures.
Si on aurait validé...
Voilà. Un vrai viol, soi-disant. Enfin...
Oui, du moins, une vraie violence, quoi. Mm-hmm. Alors qu'un viol... Oui, c'est rarement avec nous aussi des coups et des blessures, quoi. C'est souvent d'une manière assez passive et je sais pas si les gars à ce moment-là ils s'en rendaient compte ou pas, quoi.
Ouais, c'est en fait j'ai l'impression que c'est comme si ça les concernait pas et que c'était un problème parmi tant d'autres, parmi des vols de portables et parmi je sais pas la bouffe qui a cramé, enfin j'exagère et tout, mais ouais. Que ah merde, ouais, enfin moi je me souviens d'un ami qui je lui ai dit ce qui s'était passé et tout. Il m'a fait merde. Et puis et on s'est retrouvés entre filles, on discutait, et puis il est revenu me voir et il m'a dit bon, comment on fait demain pour l'Assemblée Générale, enfin, alors qu'il nous voyait très bien, on était mal, et puis voilà, enfin, puis je comprends pas, enfin je venais de lui dire ça, Et du coup, je n'en ai rien à foutre de ton assemblée générale. Enfin, là, on a besoin de parler d'un truc et c'est maintenant, quoi. Enfin, et ben ouais, mais il n'y a pas eu de répondant et on n'en a jamais parlé avec les garçons. Et enfin, moi, j'aurais même rêvé que ben, eux, ils en parlent en non-mixité entre garçons et de ce problème-là et plein de choses, quoi. Mais voilà, ça a pas... ils n'en avaient pas le besoin, apparemment.
Et du coup, enfin, pour vous, là, ce viol-là, il a fait exploser des trucs, et du coup, il y a des choses qui sont sorties et tout. Et comment vous... Donc toi, tu dis, vous êtes rassemblés assez spontanément parce qu'il y avait un besoin d'en parler tout de suite. Et comment vous avez géré ça, en fait? Est-ce que ça a mis en place des trucs pour la suite ou... je sais pas.
Bah, on aurait bien aimé, en fait. Ouais, on s'est réunis d'une manière informelle et tout, en disant, bah, ça serait bien qu'on fasse une réunion, enfin, une réunion, une discussion là-dessus, qu'on en parle plus. Et puis, voilà, et puis ça n'a pas eu lieu, enfin, finalement. Et que si, le dernier soir de l'occupation, donc au bout de 6 semaines, on a fait... Il y a eu une projection sur le mouvement... féministe, voilà, et un débat après, une discussion. Mais sinon, il s'est rien passé. Mais on en a quand même, nous, je trouve, beaucoup parlé, voilà, en petit groupe entre filles, beaucoup parlé de cette histoire-là et de plein d'autres choses. Et où à un moment, on s'est dit, ben voilà, maintenant, c'est à nous de gérer. Enfin, quand ça va plus, c'est à nous de le dire et c'est à nous de voir nos limites. Et...
Donc, c'est pas rien, quoi.
Bon, ouais, ouais. Et où on a pris cette décision à quelques-unes à dire, ben voilà, quand ça va pas, et ben on dit et on vire les mecs quoi qui nous font chier, enfin réellement, parce que là ça va plus. Et ça ne s'est pas passé. Et quand il y a eu le cas où un mec on a voulu un mec qui a fait chier pour plein de raisons, et ben où on s'est retrouvé 4 filles à dire il faut qu'il parte, et où un mec a pris la décision que non, il restait parce que c'était un lieu ouvert, donc enfin voilà. Et ce mec là c'est un très bon ami à moi, mais juste enfin, il y a des moments où enfin, moi j'avais envie de m'énerver à fond, quoi. Enfin, où ça va plus là. Là, on a dit qu'on gérait les trucs, quoi. C'était à nous, on est mal si ce mec est là. Et ben non, il restait quand même là. Et les 50 autres personnes, ben, ils en avaient rien à foutre, quoi. Mais c'est toujours ça, enfin.
Et concrètement, quand même, j'ai envie de dire la visibilisation de ce viol-là, parce qu'effectivement, comme vous disiez, rien ne dit qu'il n'y en a pas eu d'autres. Parce qu'il faut bien préciser que, du coup, ce contexte de fac occupé, donc vous dormiez dans les amphis, donc c'était des grands dortoirs, quoi.
Ouais.
Et moi, la première question, moi, le premier truc que je me suis dit quand j'ai appris ce viol, je me suis dit, les filles qui dorment là-bas, mais comment elles se sentent, quoi? Et, enfin, parce que moi, c'est ça, je me dis, mais là, je viens d'apprendre ça, et ensuite, je vais me coucher dans le dortoir, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense? Et est-ce que vous avez créer des choses par rapport à ça entre vous, de vous dire, bon là, je vais me coucher, ça te dit, tu viens avec moi, ou enfin de... Est-ce que...
Ouais, moi, après ça, je suis pas allée me coucher toute seule quand il y avait plus personne dans l'amphi. Enfin, donc c'est pendant 2-3 nuits où j'avais pas envie d'aller me coucher toute seule. Mais après, souvent, c'est vrai qu'à minuit ou à 2 heures, on était plusieurs à aller se coucher en même temps. Mmh. Donc ça allait. Mais c'est vrai que, enfin, moi, pendant quelques jours, je me suis sentie pas très bien, quoi. Voilà, enfin, je me dis, ben... Il y a n'importe qui peut venir te faire chier. Et puis finalement, est-ce qu'il y aura vraiment une réaction s'il se passe quelque chose?
Est-ce que ce sera considéré comme grave, important? Non, c'est ça qui ressort. Enfin, moi, je suis hyper choquée de ce que vous me racontez, des réactions dont vous parlez et tout ça. Et de cette déception dont vous aviez déjà parlé aussi avant par rapport aux réactions des mecs autour de vous, de vos amis, quoi.
Ouais.
Et de ces discussions-là, enfin, parce que c'est toujours ça, c'est que c'est très violent, enfin, voilà, qu'il y a une fille qui ait vécu ça, et tout, mais du coup, il y a des discussions qui sont nées, mais est-ce que vous avez quand même retiré des choses intéressantes de vos discussions entre vous à ce moment-là, quoi? Enfin, que ça vous a apporté?
Bah oui, du coup, donc finalement, on se sentait un peu seul face au problème. Enfin, c'est ça, hein, parce qu'on se sentait complètement mis à part, enfin, que que ce problème était minime finalement par rapport au problème de la lutte politique au sens complet du terme à ce moment-là. Enfin, et donc du coup, il y a quand même une certaine solidarité qui s'est créée. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé, des gens même que ça rebutait, qui avaient déjà entendu parler de féminisme et qui justement trouvaient que la non-mixité était absolument aberrante ou quoi que ce soit, et bah, qui finalement se sont sentis bien à parler juste entre filles, etc. Donc d'un côté, ouais, on a vraiment établi un lien de solidarité entre les filles qui étaient présentes à l'occupation et qui passaient aussi. Enfin, c'était vraiment très, c'était une expérience positive, donc il y a eu beaucoup d'événements négatifs, quoi, mais on en a retiré quelque chose qui était important, je pense.
Ouais. Et là, en fait, je pensais que tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a aucun garçon qui avait eu besoin d'en parler. Et en fait, non, enfin, je pense qu'il y en a peut-être eu un ou deux, et notamment, j'en ai discuté avec un qui me disait qu'il avait envie d'en parler, mais que, que peut-être il était tout seul aussi, comme garçon. Parce que lui, il s'était déjà posé ces questions-là aussi, enfin. Voilà. Et que je pense qu'il a déjà parlé aussi en non-mixité et qu'il se livre beaucoup. Mais voilà, et je pense qu'il était peut-être tout seul à ce moment-là à avoir envie de parler de ça et à avoir envie de parler de ce problème de viol ou de prendre l'occupation par rapport aux filles et tout ça. Et que voilà, qu'ils étaient peut-être quelques-uns, mais que ça s'est pas fait parce que.
Parce qu'il n'y avait pas une volonté collective, quoi.
Et puis que certainement l'urgence de la lutte, comme tu dis avec un grand L. Là, quoi. Enfin, c'est ce que tu dis, comment on fait pour lâcher demain, mais attends.
C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens, moi je trouve, se situent dans l'activisme et donc considèrent que d'un point de vue de vie, enfin, au niveau d'une sphère privée, ils vont pas faire la jonction entre les deux, quoi. Alors que justement, il y a une jonction à faire. Enfin, je veux dire, à partir du moment où t'es activiste, tu as un projet politique en tête. Ça doit pas se situer uniquement sur l'organisation de manifestations, qu'elles soient sauvages ou pas, ou quoi que ce soit. C'est aussi tout un mode de vie à avoir. C'est une sorte de coïncidence avec soi qui devrait découler de soi, justement, et que finalement, on ne retrouve pas forcément. C'est ça aussi qui est décevant.
Et que c'était le lieu pour le faire aussi, quoi. C'était le lieu où on voulait mettre en pratique ces choses-là et qui, finalement, on n'était que quelques-uns à vouloir mettre en pratique... le truc de se sentir bien chez soi, quoi. J'en ai dû.
Que les meilleurs poussent à scène. La jante parisienne, peut-être mondaine, babylonienne, contrôler l'antenne, télé, la bande FM. Je sais que mon emblème, ma cause africaine, lui pose problème. Ma couleur, ma colère, ma nature humaine est pas vaine. Mon âme reste sereine dans cette jungle urbaine. Ma lutte quotidienne, la parole est reine, donc la parole est mienne. On est bien, donc le beat gêne. Le micro en main, que mon message parvienne. Sans censure, on la scène, que la clique politicienne. La parole est mienne. On est bien, donc le beat gêne. Le micro en main, que mon message parvienne. Sans censure, on la scène, que la clique politicienne. La parole est mienne. Pour le message, la parole est mienne. Pour le doing damage, la parole est mienne. Pour le possible, la rumeur, la parole est mienne. Pour le 9-3, la parole est mienne. Pour le 9-5, la parole est mienne. Pour la fonte de Zaya, la parole est mienne. Pour mon homeboy Chériot, la parole est mienne. Pour mon homeboy Big James, la parole est mienne. Pour les lignes du Jack Bossy, la parole est mienne. Pour la peinture Bossy, la parole est mienne. Pour le Daron Ben Clan, la parole est mienne. Pour le Blanc Coffre, la parole est mienne. Pour épiner sur scène, la parole est mienne.
Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM, je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi prochain à 19h pour ceux ou celles qui nous prennent maintenant en route et qui voudraient entendre toute l'émission. On parlait... Donc on, voilà, là on a évoqué peut-être une des choses les plus graves qui s'est passée sur l'occupation, c'est-à-dire ce viol qui a été visibilisé et qui a créé, qui a créé une réaction forte de la part de plein de filles forcément, moins forte de la part des mecs apparemment, ce qui aussi a créé des déceptions ou des colères ou je sais pas. Et moi j'ai peut-être envie de développer justement sur la solidarité en fait.
Entre entre nous, on était certaines déjà à se connaître, mais d'autres, on se connaissait pas trop, et du coup, on s'est vachement rapprochés, soudés, et où on partageait un truc ensemble, en fait, de se dire qu'on en avait ras-le-bol, et que merde, là, il y a des mecs qui nous faisaient chier, quoi, enfin, qu'on avait envie qu'ils réagissent, et tout. Et que du coup, on s'est retrouvés sur un truc, et ça nous a vachement unis, je trouve, et que maintenant je pense qu'on a envie de continuer à faire des choses ensemble et à réfléchir là-dessus en fait. Et à continuer peut-être à faire des trucs en non-mixité et tout.
À réfléchir là-dessus et aussi pour, les prochaines fois et tout ça, anticiper et puis, d'en parler avant d'exiger une discussion peut-être.
Oui, que certains sujets soient abordés.
Pas le dernier jour de l'occupation.
Voilà, pas le dernier soir, quand tout le monde range.
Et du coup, ça fait plusieurs fois que vous évoquiez ce genre de truc, ça a lieu de nouveau, ou je sais pas quoi. Et vous avez des... Enfin, où vous en êtes, en sortant de cette lutte-là, avec tout ce qui s'est passé, de positif, de négatif, où vous en êtes, c'est quoi vos envies, vos projets?
La lutte, elle n'est pas encore finie.
Ouais, non, mais ça, tu vois, c'est important à dire, parce que même pour moi, qui me dit c'était pas un truc contre le CPE, j'ai pourtant l'impression qu'il y a plein de choses qui s'essoufflent. Bon, ce qui n'est pas faux non plus, qu'il n'y a plus d'occupation, des trucs comme ça, mais il y a des gens qui restent organisés, qui restent prêts à réagir, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on peut constater un certain essoufflement, mais en attendant, là, on est en train d'essayer d'appeler les gens à tout un tas d'actions pour le mois de mai. Un tas d'actions, une espèce de lutte contre le gouvernement et le système en général, à l'échelle de chacun. Inviter les gens à vraiment à faire ce qu'ils veulent pour montrer qu'ils sont pas d'accord, quoi. Et c'est ce qu'on aimerait faire pour le mois de mai.
Et il y a des idées concrètes et tout, parce que des fois c'est pas facile d'imaginer, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour montrer.
Alors, il y a des idées concrètes, donc va y avoir des manifestations, va y avoir des actions un peu plus discrètes, de la part de personnes. et il va y avoir des tas de choses, des tractages, plein de choses, qui concernent plein de choses, sur plein de choses.
D'essayer de...
C'est très global.
Voilà. Mais d'essayer de faire prendre conscience aux gens que, justement, le mouvement, c'était pas un truc anti-CPE, mais sur plein de choses, sur le capitalisme en général, sur la société de consommation, de...
Sur le féminisme.
Sur le féminisme.
Ouais.
Sur, par exemple, les lois aussi Sarkozy, quoi. Juste une petite info, il y a un rassemblement samedi à 14h30 à Félix Poulard contre les lois, justement, de l'immigration.
C'est ça.
Et...
Ouais, des lois qui sont catastrophiques, quoi, qui réduisent encore plus la possibilité, non seulement d'immigrer, mais aussi, pour ceux qui sont là, des fois, depuis 10-15 ans, de rester sur le territoire ou de faire venir leur famille. Enfin...
Exactement. Puis d'enlever aussi le secret professionnel des travailleurs sociaux, quoi. Bon, c'est totalement autre chose. Mais c'est aussi, quoi, c'est aberrant et tout, quoi.
C'est révoltant, je dis que c'est important de se mobiliser, parce que quand même, moi, c'est... Enfin, voilà, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, votre forme d'implication. C'est parce que moi, je trouve ça quand même difficile, des fois, d'entendre... certains étudiants, voilà, nous faire pleurer sur bon, le CPE, tout ça, et qui était une merde, hein, c'est sûr, mais en même temps, voilà, nous faire un peu pleurer là-dessus, et puis qu'on n'entende rien d'autre, quoi, parce que voilà, il se passe en même temps des choses super graves, quoi. Et du coup, j'avais un lien en tête qui m'échappe, mais
concernant.
C'était sur. Oui, sur vos projets, tout ça. Si, voilà, si, je sais, c'est que je me disais aussi une mobilisation peut-être importante à avoir aussi dans le futur, c'est aussi par rapport à la répression qui a eu lieu et au procès.
Oui.
Oui, et du coup, si vous avez envie de nous en dire quelques mots, d'où ça en est
Aux procès qui ont eu lieu et aux procès qui vont avoir lieu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un procès en mai, le 26 mai. Il y a des procès aussi en septembre, en octobre et en novembre. Donc...
Quoi, quel chef d'inculpation en général ou...
En général, troupement illégal, parce que depuis les émeutes de novembre, il y a les lois qui sont sorties qu'on n'a pas le droit d'être plus d'une dizaine de personnes à des endroits.
Cinq, je crois.
Cinq.
Oui.
Ouais, cinq. Aussi pour jet de pierre.
Incitation à l'émeute, outrage à agent.
Ouais.
Truc comme ça, quoi.
Oui, et peut-être sur ce... Enfin, c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument pour essayer de coincer des gens, tout en sachant clairement que les arrestations, elles ont été super arbitraires, aléatoires, etc.
Discriminatoires aussi, on a pu voir.
Discriminatoires, effectivement.
Énormément de gens, pas forcément qui ont le stéréotype...
L'étudiant bien coiffé.
Voilà.
Étudiant blanc.
Ouais.
Il n'y en a pas eu beaucoup, je crois.
Non,
pas
énormément.
Finalement, d'étudiants blancs.
Par contre, ce qui est marrant à signaler, c'est qu'au sein des émeutes, etc., il y a peu de filles qui ont été arrêtées, hein, aussi. Quand bien même, il y en avait qui lançaient des trucs et tout, y a plein de filles qui se sont jamais fait arrêter, quoi.
Ouais.
Qui n'étaient pas forcément. Très discrète non plus. Enfin, je veux dire, c'était une volonté affichée de la part de la police de ne pas arrêter des filles. Alors, genre, même t'es mignonne, enfin, retourne.
Ah, des fois, la société patriarcale nous profite. Enfin, nous profite quelque part.
Ah oui, moi, les CRS ont été. Enfin, galants. Oui, quand on était monté sur la préfecture, faites attention, mademoiselle, à pas vous faire mal en descendant. Je me suis un peu énervée contre eux.
Quoi, galant, il tapait aussi bien avec le coup de matraque, mais...
Oui, c'est ça.
Faut pas trop leur demander.
Ils sont programmés pour ça, là.
Après, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'au niveau de la répression, c'était vraiment une envie de faire couler le mouvement, quoi, de cibler des gens, de leur donner des peines super lourdes, des exemplaires, quoi. Parce que après... Là, c'est la fin du mouvement et le dernier procès qui a eu lieu, c'était que du tige et plus de mois de
travaux
prison.
D'intérêt généraux, oui. Donc, qui sont oui, pas de prison, même avec sursis.
Ouais.
Ou...
Sachant aussi que le comité anti-répression de la mobilisation a quand même réussi à réunir pas mal d'argent pour payer les amendes des personnes inculpées et donc qui étaient passées en procès.
Pour que les amendes soient payées collectivement.
Voilà.
Juste parce que c'est par une personne qui a eu la malchance.
Voilà, et pour aider des gens qui sont dans une situation financière qui n'est pas forcément géniale à la base non plus, quoi. On a pu le voir dans les différents procès, que c'était pas généralement, enfin, c'était des précaires.
Ouais. Et même si c'est le cas qu'il y en ait certains qui aient de l'argent, c'est prendre cette solidarité, quoi. Quoi, solidarité au niveau du mouvement et que c'est pas que quelques-uns qui ramassent pour les autres, quoi.
Donc c'est important, voilà, de se tenir au courant de ce qui se passe là et de voir quelle forme de solidarité il peut y avoir aussi, quoi. Mmh. Et là, concrètement, si déjà des gens qui nous écoutent, qui vous écoutent, mais aussi plus largement, enfin tout à l'heure vous parliez de l'importance aussi des rencontres qui ont eu lieu avec des gens qui sont venus et tout, comment les liens ils peuvent se faire, là, comment les gens qui se disent bah ouais... ce qu'elle porte là, c'est des trucs importants, mais j'ai envie qu'on puisse se retrouver, faire des choses ensemble et tout. Comment les liens ils peuvent se faire? Je sais pas si. Est-ce que vous, du coup, vous disiez que vous attendiez un local peut-être,
ouais,
au niveau de la
on
fac?
On attend un local au niveau de la fac, ouais. Et puis on se réunit souvent à midi devant le petit potager.
Un hommage.
Voilà, et puis sinon, voilà, on aura le local et puis. Sur internet, sur Indie Media, il y a quand même pas mal d'infos sur ce qui se passe aussi à la fac et sur le mouvement.
À Antigone aussi, il y a des réunions.
Antigone, bah d'ailleurs ce soir, ouais. C'était à 5h, donc ça doit être fini. Il y a beaucoup de réunions interprofessionnelles. Voilà.
Donc on rappelle, Indie Media, c'est un média principalement sur internet indépendant. Et alternatif, donc c'est grenoble.indiemedia.org, sur lequel vous pouvez trouver les infos de ce qui se passe à Grenoble. Par exemple, c'est là aussi qu'on trouve des infos sur les manifs ou sur des trucs comme ça, et des articles.
Oui. Plus de réflexion, d'analyse de fond, sur ce qui se passe.
Ouais. Où tout le monde peut publier quelque chose, donc pour dire rapidement. Et Antigone, donc on en a déjà parlé à Desjorées, on les avait invités. C'est une bibliothèque, librairie, espace d'expression qui se trouve rue des Violettes.
Rue des Violettes, donc du côté de la rue des Eaux Claires. C'est une petite rue, c'est facile à trouver. Et alors, pendant qu'on en est à passer des contacts, tout ça, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à quelques informations, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, que vous aviez envie de partager. Comme ça.
Oui, au niveau justement de l'antisexisme, etc., moi j'aimerais justement qu'on se retrouve et puis inviter les gens à se retrouver aussi autour d'une réunion, un truc comme ça. Donc je sais pas, du tout, du coup là je parle super spontanément et j'ai pas du tout de date en tête ou quoi que ce soit. Mais on passera l'information sur Indie Media si on veut faire quelque chose.
Voilà, par exemple, voilà. Ça peut être un bon moyen.
Et peut-être des étudiantes ou des,
oui, voilà.
Des gens qui vous écoutent là, se dire ah tiens, on pourrait faire ça.
Voilà,
pour donner des idées. Et dans les infos, alors peut-être rapidement, on peut évoquer donc la fameuse manif du 1er mai. Alors, je crois que l'idée, c'est un peu peut-être de se dire que ce qui est intitulé « Fête du travail », eh ben, peut-être ça peut être beaucoup d'autres choses, parce que c'est quand même un moment souvent assez populaire où il y a des gens d'un peu partout qui peuvent se retrouver. Donc peut-être c'est l'occasion de porter aussi d'autres types de revendications. Donc à Grenoble, elle a lieu à 10h devant la gare. Peut-être ça peut être l'occasion d'amener d'autres contestations et sous d'autres formes aussi que d'habitude. C'est quand même, on en reparlait récemment et c'est peut-être pas inintéressant de savoir que le 1er mai c'était à la base en fait c'était la date où ont été assassinés deux anarchistes américains, hein, il me semble, qui était d'origine immigrée, et que c'est parce que à l'époque aussi il y avait des très forts mouvements sociaux et qui étaient donc pas complètement encadrés, et donc il y avait des individus peut-être autonomes, anarchistes, qu'importe, et qui portaient aussi ces mouvements-là. Donc voilà. Et sinon, une date, le 13 mai.
Le 13 mai, sachant que la prochaine émission, c'est le 10 mai, donc dans 15 jours, hein, Ce sera une surprise sur quel thème ce sera. Vous verrez bien.
Oui, bon, d'accord. On n'anticipe pas toujours, mais en tout cas, vous pouvez nous faire confiance pour que ce soit intéressant.
Non, non, mais si, si, je sais. Si, ce sera certainement l'émission qui devait être diffusée il y a 15 jours. Il y a eu une erreur, d'ailleurs. Toutes nos excuses à toutes, à nos nombreuses auditrices qui s'attendaient à une émission sur la prostitution. C'était une émission sur le viol, qui est très très bien, mais qui était une émission qui avait déjà été diffusée. Il y a eu une erreur technique à Kaleidoscope, donc il y a eu une rediffusion d'une ancienne émission. Toutes nos excuses, et du coup, certainement que le 10 mai, nous diffuserons l'émission sur les travailleuses du sexe, avec des interviews de travailleuses du sexe d'une association de Toulouse, Griselidis. Mais tout ça pour dire que le 13 mai, c'est une autre info, le 13 mai, il va y avoir une représentation, un spectacle discussion autour des monologues du vagin, donc une création...
qui est l'occasion de se retrouver entre femmes.
Donc voilà, c'est une représentation qui est seulement pour les femmes. Et c'est le 13 mai, c'est un samedi, à 19h30, et ça se passe à la Mazurka, enfin au hangar de la Mazurka, qui est un lieu squatté à Fontaine, et c'est 7 rue de la Gaîté.
Voilà, et je pense que ce sera également annoncé sur Indie Media Grenoble, donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous y référer.
Voilà.
Donc on vous laisse et on se dit à dans 15 jours.
Et merci beaucoup à nos invités.
Ben, merci.
Merci à vous.
Merci. Au revoir. Bonne soirée.
Bye.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos.
ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Donc pour finir l'émission Dégenrée, on avait oublié de vous présenter cette chanson. C'est une chanson que toi, Luda, tu avais envie de passer. Est-ce que tu peux nous présenter
Alors en fait, on vient d'écouter Gracias a la vida de Violeta Parra, qui est une chilienne révolutionnaire et qui a lutté pendant toute sa vie, mais au quotidien, quoi. Et que je trouve vraiment super bien comme femme, et qui, là, c'est l'une de ses dernières chansons, et elle remercie la vie de lui avoir permis de faire toutes ses luttes et tout. Donc, elle est triste à des moments, et en même temps, elle est super, elle donne vachement d'espoir, quoi. Donc, voilà.
Merci, bonne soirée. On passe l'antenne à l'émission d'après.